Bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Poitiers, Tours, Besançon, Annecy se parent de vert. Les militants écologistes savourent leur victoire après le second tour des municipales, notamment dans la capitale des Gaules où nous serons dans un instant. Une victoire qui laisse un goût amer au sortant Gérard Collomb, vous l'entendrez.
Les fronts anti-vert n'ont pas marché, pas plus que le front républicain à Perpignan. Louis Alliot permet au Rassemblement national de contrôler sa première ville de plus de 100 000 habitants depuis 1995 et Toulon.
Le bilan des municipales qui s'avère mitigé pour la droite, qui revendique certes plus de la moitié des villes, mais qui voit son ancrage local éclipsé par la perte de Marseille et de Bordeaux. Et puis les maires socialistes font de la résistance, comme Anne Hidalgo qui triomphe à Paris, une victoire de justesse. En revanche, pour Martine Aubry à Lille, nous serons sur place dans ce journal.
Pourquoi il est difficile de tirer des leçons définitives du deuxième tour des élections municipales? C'est le thème du billet politique de Frédéric Saïs juste après ce journal. Et à la une encore,
le suspense autour du rendu du jugement de François Fillon aujourd'hui, et puis la pandémie rebondit encore aux États-Unis, sur la côte ouest notamment. C'est une prise sans précédent pour les Verts qui vont donc diriger la deuxième agglomération de France. Un doublé historique à Lyon où deux inconnus du grand public, Grégory Doucet et Bruno Bernard, ont réussi à ravir haut la main la mairie et sa métropole. Pour le clan Collomb, c'est une lourde défaite, mais une victoire éclatante qui a ravi les militants écologistes qu'a rencontré Mathilde Imberti.
Les anciens militants saluent l'entrée dans une nouvelle ère, les tout jeunes aussi qui étaient de toutes les marches pour le climat à Lyon.
C'est juste historique en fait. Je pense que les gens sont prêts pour ce changement justement et sont prêts à couper le cordon qui nous relie avec l'ancien monde et à arriver sur quelque chose de nouveau et de plus beau. Voilà.
Grégory Doucet, maire de Lyon, ce sera son tout premier mandat politique. Âgé de 46 ans, il vient de l'humanitaire, un profil qui tranche après 18 ans de Gérard Collomb.
Pour moi, c'est un renouvellement de la classe qui est en place depuis 20 ans. C'est surtout ça.
J'ai jamais vu Lyon sans Gérard Collomb, donc ça me fait plaisir, je suis née à Lyon. Maintenant, il faut vraiment changer les choses sur le terrain concrètement. Et comment on fait une politique sur le terrain qui tient du sens, qui soit écologique, mais aussi et surtout sociale? Parce que c'est ça qui manque à Lyon en ce moment.
Les attentes sont grandes et les militants ont des priorités à faire passer.
On va mettre en place des états généraux de la culture, plein de mesures pour remettre la nature en ville. C'est un vrai enjeu aussi du mandat.
Grégory Doucet promet une ville apaisée. Aux entrepreneurs, il dit que l'écologie ne sera pas l'ennemi de l'économie. Une riposte aux critiques très dures lancées pendant la campagne, mais qui n'ont pas eu de prise sur l'électorat lyonnais.
Des critiques émises par le maire sortant Gérard Collomb, allié avec les Républicains, ce qui lui a valu d'ailleurs de perdre l'investiture de La République En Marche. Aujourd'hui, après avoir perdu Lyon qu'il dirigeait depuis 19 ans, Gérard Collomb met en garde son successeur Grégory Doucet.
Je crois qu'il va prendre contact avec la réalité. Le discours vert où on mettait des arbres partout vont être confrontés à la crise économique qui va y avoir à partir de octobre, novembre, sauver de la faillite des entreprises, essayer de faire en sorte que le chômage n'explose pas dans cette agglomération. C'est moins sympathique que de parler de la nécessité de promouvoir l'écologie. Trois mandats qui viennent de s'écouler. On a vu comment la ville s'est transformée. Ils vont avoir 6 ans pour prouver ce qu'ils sont capables de faire dans cette ville. Je leur souhaite bonne chance.
Gérard Collomb, le maire sortant de Lyon, au micro de Christophe Vincent. Elle repasse, mais de justesse. Martine Aubry conserve le beffroi de Lille et rempile pour un quatrième mandat. L'ancienne ministre socialiste termine le second tour des municipales avec 227 voix d'avance sur son adversaire, l'écologiste Stéphane Bally. La troisième candidate, la macroniste Violette Spielboot, n'aura pas fait trembler avec ses 20%, car tout s'est réellement joué entre l'EPS et Europe Écologie Les Verts, Rosalie Lafarge.
Les premières estimations la donnent battue, les derniers bulletins dépouillés lui offrent la victoire et c'est sous les applaudissements que Martine Aubry finit par sortir de son bureau.
Il a fallu la chercher celle-là.
Oui, il a fallu la chercher, mais on y est allé.
Ce quatrième mandat, la maire de Lille l'arrache sur fond d'abstention record et avec seulement 227 voix de plus que les écologistes. Message reçu, promet l'ancienne ministre.
Je n'ai pas attendu aujourd'hui, mais j'ai entendu tout ce que nous ont dit les Français.
et tout ce que nous ont dit les Lillois en votant pour la liste de Stéphane Bailly comme en votant pour la mienne, en disant maintenant, faut arrêter de faire des petits pas à la transition écologique au galop.
Pas le choix, répond Stéphane Bailly un peu défait forcément.
Si près du but, c'est vraiment si près du but, un beffroi qui a fortement vacillé.
Mais l'écologiste voit en la défaite un avant-goût de victoire.
C'est aussi un score historique pour l'écologie politique à Lille et pour la demande de changement. Aucune liste à Lille n'avait fait un tel score pour demander un changement. Ce soir, il y a des mots. Et sur les 6 prochaines années, j'attendrai les actes.
Ces actes, les écologistes vont les attendre désormais sur les bancs de l'opposition dans le conseil municipal lillois, eux qui étaient dans la majorité Aubry depuis 20 ans.
Rosalie Lafarge à Lille pour France Culture. Il y a eu Toulon en 1995, Perpignan en 2020. C'est la deuxième ville de plus de 100 000 habitants à tenter l'expérience FN-RN. Louis Alliot l'a remporté hier avec 53% des voix contre 47% pour le maire sortant LR Jean-Marc Pujol. Le Front républicain, déjà fissuré, a cédé. L'ancien vice-président du Front national deviendra donc samedi prochain maire de la cité catalane. Et il doit sa victoire à sa stratégie de normalisation, Maxence Lambrec.
Aux yeux de la droite, il est devenu peu à peu crédible, solide, rassurant.
S'il passait pas, je partais de Perpignan.
Les CSP+ ont voté pour lui.
Nous, on est ravis. Les petites mamies, elles sont ravies. Parce qu'au moins, on pourra sortir en sécurité peut-être le soir. C'est la première fois que je sors le soir à Perpignan.
Sécurité et emploi, les deux axes de sa campagne, loin du RN et de Marine Le Pen. L'historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg.
C'est la première campagne municipale à Perpignan sans un grand meeting du président du Front National. Et c'est bien le fait de cette délepénisation qui lui a permis de réussir à attirer l'électorat de la droite et du centre sur son nom face à un candidat de droite.
Un candidat et maire sortant qui a du mal à digérer sa défaite, Jean-Marc Pujol.
Quand on voit aujourd'hui se porter vers les candidats de l'extrême droite des voix, eh bien je dis que notre démocratie est malade.
Démocratie malade, selon lui.
On veut le champagne parce qu'on a travaillé pour Alliot.
La communauté gitane est venue féliciter le nouveau maire.
Il a parlé avec nous, avec les gitanes. Il s'est bien exprimé.
Qu'est-ce que vous en attendez?
Pas seulement un maire, mais un père aussi, pour nous. Parce qu'on nous a laissé de côté.
Et Louis Alliot joue à plein cette carte du rassemblement.
À tous les employés de la mairie, qu'ils ne s'inquiètent de rien. Et ils verront que les véritables démocrates sont aux commandes de la mairie. Merci.
Prendra-t-il aussi les commandes de l'agglomération? Réponse en fin de semaine.
Le Rassemblement national qui gagne à Perpignan, le PS qui résiste, la droite classique qui revendique la moitié des villes mais qui perd des symboles comme Bordeaux et Marseille. Et puis cette vague verte. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Vous êtes chef du service politique de France Culture. Ce second tour des municipales se résume-t-il à une claque pour La République En Marche, Stéphane?
Oui, pour le parti d'Emmanuel Macron, il y a peu de bonnes nouvelles. On peut citer certes les victoires du Premier ministre Édouard Philippe au Havre ou encore de François Bayrou à Pau, mais il s'agit là d'alliés politiques non étiquetés La République En Marche. Édouard Philippe n'a jamais pris sa carte à l'REM. François Bayrou, lui, est le patron du Modem. Et puis, ils étaient déjà implantés, élus maires de leur commune il y a 6 ans. Il faut donc voir là des victoires personnelles qui ont assez peu à voir avec leur ancrage dans l'actuelle majorité présidentielle. On pourrait même presque dire qu'ils ont gagné malgré leur appartenance à la majorité, parce que pour le reste, la plupart des candidats étiquetés ou soutenus par LREM ont été battus. Ludovic Jolivet à Quimper, Alain Fontanelle à Strasbourg, Laurent Hénard à Nancy, Olivier Carré, maire sortant à Orléans, soutenu par En Marche, a été battu par l'ancien maire Serge Grouard, étiqueté lui Les Républicains. On peut citer Lyon également, où l'ancien ministre Gérard Collomb, on l'a entendu, est sévèrement battu. Et puis bien sûr, Paris, où Agnès Buzyn, arrivée 3e dans le 17e arrondissement, avec un tout petit score de 13%, n'est même pas élue au Conseil de Paris.
Et la droite conserve, elle, son ancrage local, mais je le disais, elle perd des villes symboliques, Stéphane.
Oui, on ne peut évidemment pas parler de défaite pour la droite. Un grand nombre de maires de droite ont conservé leur siège à l'occasion de ce scrutin. Citons par exemple Émile Roger Lomberti à Limoges. Il avait ravi cette ville historiquement de gauche il y a 6 ans. Il a été réélu hier soir à 59%. Mais les Républicains perdent tout de même, vous l'avez dit, deux de leurs bastions, que sont Bordeaux et Marseille. Ils perdent également Perpignan au profit du Rassemblement National, ainsi que Périgueux et Chambéry au profit de la gauche. Ils se consolent également en remportant Metz en Moselle et Lorient en Bretagne, mais on peut tout de même parler de bilan mitigé à droite pour ce second tour.
Stéphane Robert, merci pour cette analyse. Et de son côté, Emmanuel Macron marque sa préoccupation pour le faible taux de participation aux élections municipales. Presque 60% d'abstention, ce n'est pas une très bonne nouvelle, on convient l'Élysée. Comment l'expliquer? Il y a la Covid-19, certes, mais il y a aussi une désaffection pour la chose publique, estime le politologue Yves Bardon de l'Institut Ipsos Soprasteria, partenaire de France Culture.
La première raison, c'est évidemment le fait que la crise sanitaire n'est
pas terminée, qui a une peur de la contamination du fait d'aller voter. Ça, c'est une constante du 15 mars au 28 juin. Mais il y a aussi d'autres raisons. C'est la difficulté d'identifier l'utilité de venir voter, la portée du vote. Est-ce que c'est en mesure de changer dans la vie locale ? Il y a des tas de gens qui ne viennent pas voter parce qu'ils ne se sentent pas concernés par les programmes, par les candidats, et qui ont le sentiment qu'ils sont les laissés pour compte des élections, quelles qu'elles soient. Donc ceux-là, ils ne risquent pas de venir voter.
Quelles conséquences peut avoir cette forte abstention ?
Il y a toujours la question de la légitimité des élus, question qui a été déjà posée lors de l'élection présidentielle, puisque le niveau d'abstention était très important, ainsi que celui des votes blancs et nuls. Mais encore une fois, comme disait l'autre, ceux qui ne viennent pas ne peuvent pas se plaindre. Donc ils sont élus, ils sont peut-être élus sur un score très faible, mais en tout cas, ils ont bénéficié du choix de ceux qui sont venus voter. Donc de ce point de vue-là, c'est incontestable.
Le politologue Yves Bardon de l'Institut Ipsos Soprasteria, dossier signé Stéphane Robert. Les municipales 2020, abstention historique, forte poussée écologiste et revers du parti présidentiel. C'est un dossier complet à retrouver en une sur franceculture.fr avec également les principaux résultats et ceux de votre commune.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, hasard du calendrier. Au lendemain de la vague verte au municipal, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat.
Ceux qui avaient été tirés au sort, chargés l'an dernier de réfléchir à des solutions contre le réchauffement climatique juste après la crise des Gilets jaunes. Une semaine après la remise des conclusions de leurs travaux, les citoyens donc de la Convention pour le climat seront reçus à l'Élysée. Référendum, projet de loi ou décret, pour le moment, l'exécutif n'a pas précisé ses intentions. Mais Héloïse, une lycéenne de 17 ans, originaire de Dunkerque, membre de ces 150 citoyens, espère vraiment qu'Emmanuel Macron fera avancer les dossiers écolos.
Nos propositions, elles vont pas aller dans le sens du gouvernement. Et si elles y allaient, je pense qu'elles auraient été déjà prises, parce que j'ose croire qu'on sait qu'il faut agir en question d'urgence écologique. Et je me dis vraiment, ouais, il faut du courage. Et là, on constate de plus en plus l'urgence. On a été confronté à la crise sanitaire. Faut agir. Est-ce que j'y crois ? Oui, parce que j'ai envie d'y croire. Parce que j'ai envie de me dire que c'est pas fini et que dans tous les cas, le combat va continuer. Moi, j'habite à Dunkerque, donc sur le littoral, dans le nord, et je sais que ma ville, elle va disparaître.
La suite pour vous, ça va être quoi ? Vous impliquez ? Il y a une association des 150, vous en faites partie pour faire vivre vos travaux ?
Ouais, donc on a créé une association des 150. Je pense qu'elle va être vachement intéressante pour garder le contact entre nous et voir comment chacun veut agir. Moi, je pense que je vais partir avec Youth for Climate. Les mouvements de Greta Thunberg.
Pour le climat.
Ouais. Et du coup, je pense que ces mouvements-là, ils vont être vachement intéressants pour moi, d'abord pour sensibiliser les nombres de personnes qui vont être au courant de la convention. La convention, c'est le début. C'est le début d'une autre approche politique. C'est le début, peut-être, d'une remise en cause. De se dire, mais il y a d'autres possibilités de faire parler les citoyens. Il y a d'autres possibilités d'avoir un lien sur plein de questions avec le peuple, avec la population. Et ça, je pense que c'est beau.
Héloïse, une lycéenne de 17 ans, membre des 150 citoyens reçus aujourd'hui à l'Élysée, elle répondait à Véronique Rebérotte. La fin d'un feuilleton politico-écologique qui aura duré plusieurs années. La doyenne des centrales nucléaires Fessenheim va définitivement être mise à l'arrêt cette nuit, place au démantèlement qui va durer plus de 20 ans. Le monde, confronté depuis décembre dernier à la pandémie de Covid-19, a franchi hier deux seuils symboliques avec plus d'un demi-million de morts et 10 millions de personnes infectées. L'Europe est le continent comptant le plus de décès, suivi de la zone États-Unis-Canada. Les États-Unis, où l'Ouest et surtout le Sud du pays sont particulièrement touchés. La Californie, pourtant bon élève en la matière, connaît elle aussi une résurgence des contaminations. Correspondance signée Loïc Laurie.
Fin mars, la Californie avait été le premier État à ordonner un confinement général. Pour le Golden State, la situation actuelle est d'autant plus un constat d'échec avec pour résultat la fermeture des bars à Los Angeles et dans d'autres comtés. La mesure a également été prise par des États qui s'étaient montrés beaucoup plus laxistes, la Floride ou le Texas où là aussi le beau temps et les plages n'invitent pas la jeunesse à la prudence. Les contaminations augmentent ainsi plus ou moins rapidement dans près de 30 États. Andrew Cuomo, le gouverneur de New York où, au contraire, l'épidémie est maîtrisée, pointent du doigt les autorités fédérales. Leur tentative pour stopper la première vague était ratée. Ils disent ce qu'ils disaient il y a 3 mois. Ils sont dans le déni vis-à-vis de cette crise. Ils ne veulent pas dire la vérité aux Américains. Ce dimanche, toutefois, a semblé marquer en la matière une légère mais notable inflexion. Le vice-président Mike Pence s'est montré masque sur le visage. Lavez-vous les mains, ne vous touchez pas le visage et portez un masque lorsque c'est indiqué ou quand vous ne pouvez pas appliquer la distanciation physique. Porter un masque est une bonne idée. Toujours rien, en revanche, du côté du président lui-même, qui ne s'est jamais protégé ni n'a protégé les autres en public, un comportement adopté par beaucoup de ses partisans.
Loïc Loury aux États-Unis pour France Culture. Britanniques et Européens affichent un optimisme prudent au moment d'entamer aujourd'hui 5 semaines d'intenses négociations destinées à progresser enfin sur la relation post-Brexit. Objectif, éviter un no deal catastrophique en fin d'année. Le temps de ce lundi 29 juin marqué par le retour progressif du soleil sur une grande partie de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 19 et 25 degrés sur la moitié nord du pays, 24 à 34 au sud.